Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième jour de cette neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. Il est un des aspects de la souffrance que nous abordons rarement de manière immédiate, alors qu'il touche au cœur même de son mystère. La souffrance est profondément et intimement liée à la relation. Elle ne se comprend pas seulement comme une épreuve intérieure, mais comme une réalité qui se déploie dans le rapport à autrui. Là où il y a relation, il peut y avoir blessure. Là où il y a lien, il peut y avoir souffrance. Nous l'avons peut-être déjà perçu hier à travers le témoignage de Thérèse qui en offre une illustration particulièrement éclairante. La racine de sa souffrance ne réside pas d'abord dans une faute morale, ni de sa part, ni de celle des autres, mais dans une atteinte portée au lien lui-même. La perte de sa mère, les séparations successives, les incompréhensions affectives. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que fait l'autre qui fait souffrir, mais le fait même d'être en relation avec lui. La souffrance naît alors dans cet espace fragile où l'homme, ouvert à l'autre, devient aussi vulnérable à la blessure. L'enfer, c'est les autres, écrit Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Et à certains moments de notre vie, nous pourrions être tentés de lui donner raison. Mais est-ce toute la vérité? L'autre n'est pas seulement celui qui me fait souffrir ou que je fais souffrir. Il peut aussi devenir le médiateur d'une grâce où Dieu me rejoint et où s'esquisse pour moi un chemin de vie. Dès lors, une question s'impose. Souffrons-nous seuls? En apparence, oui. La souffrance semble être l'expérience la plus intime, la plus personnelle. Et pourtant, elle est presque toujours habitée par la présence, même dans l'absence d'autrui. Même dans la solitude, l'homme porte en lui le regard de l'autre, sa parole, son jugement. Le regard d'autrui m'expose, me rend faible et fragile, me rend objet pour lui. S'il y a un autre avec un grand A, quel qu'il soit, ou où qu'il soit, quels que soient ses rapports avec moi, j'ai un dehors, j'ai une nature, ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre, dira Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Pour Sartre, le jugement d'autrui est pénétrant, car l'homme ne se comprend lui-même qu'à travers le regard des autres. Le seul moyen de défense que l'homme a à sa disposition est de transformer autrui à son tour en objet. Il lui faut se délivrer d'autrui, lui échapper pour se réapproprier soi-même et le monde qu'autrui lui vole. La conscience invente ce subterfuge pour continuer à exister en tant que sujet. Or, autrui tente de résister à cette tentative de subordination, ce qui ouvre une véritable lutte des consciences, dans laquelle je ne peux être reconnu par autrui que si je parviens à l'objectiver. Sartre a donc une vision conflictuelle des relations entre consciences. Il l'explique très bien dans sa pièce de théâtre « Huis clos », qui signifie « à porte fermée » dans un lieu dont on ne peut pas sortir. Dans cette pièce, Jean-Paul Sartre met en scène trois personnages enfermés ensemble pour l'éternité. Très vite, ils comprennent qu'il n'y a pas de bourreau extérieur. Chacun devient le bourreau des deux autres. Leur supplice consiste à être exposé sans cesse au regard d'autrui, incapable d'échapper au jugement qui les enferme dans une image d'eux-mêmes. Ainsi naît la célèbre formule « L'enfer, c'est les autres ». Sartre met ici en lumière une vérité profonde. La relation peut devenir un lieu de souffrance lorsqu'elle aliène la liberté et enferme la personne dans une identité figée. Sartre met ainsi en lumière une dimension réelle de l'expérience humaine, la vulnérabilité du sujet face au regard de l'autre. La honte, par exemple, révèle que l'homme se découvre comme objet aux yeux d'autrui. Il y a là une intuition forte. L'homme ne se possède pas totalement lui-même. Il est exposé, livré au jugement d'un autre qui peut le blesser profondément. Cependant, la perspective chrétienne ne peut se réduire à une lecture uniquement conflictuelle de la relation. Certes, l'autre peut devenir pour moi l'occasion de blessures et devenir comme un creuset de souffrance, tout comme d'ailleurs je peux l'être pour lui. Mais plus profondément encore, l'autre demeure un seuil de révélation et de vie. La relation, même lorsqu'elle est traversée par la souffrance, demeure ouverte à ce que Dieu veut y révéler et y accomplir. Cette ouverture à la relation appartient à la structure même de notre nature humaine. Nous sommes créés pour la communion. Et c'est précisément la révélation divine qui vient confirmer cette vérité de création et d'existence. Nous lisons dans l'Écriture, au verset 27 du premier chapitre du livre de la Genèse, qui est dans sa juste traduction le livre des principes, « Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. » Permettez-moi de vous le dire en hébreu. « Ve'ivra Elohim et ha'adam, betzalmo, betzelem Elohim bara oto. » Le terme hébreu désignant l'image, tselem, partage sa racine avec tsel, qui signifie ombre ou dans la projection. Dans l'expression biblique Betselem, littéralement dans l'ombre de Dieu, le préfixe B, dans, renforce l'intimité ontologique. Et cette proximité de création ouvre à une profondeur de sens exceptionnelle. Car le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un Dieu lointain ou abstrait, mais le Dieu des vivants, celui qui fait exister et maintient dans l'existence tout ce qui vit. De même que l'ombre n'existe qu'en relation avec l'objet ou le corps qui la projette et la lumière qui la rend visible, ainsi l'homme ne possède pas en lui-même son principe d'existence. L'homme n'est pas une effigie, une simple copie imparfaite à cause du péché originel, et statique, vouée à la souffrance et irrémédiablement destinée à la mort, ou encore moins une image détachée de Dieu comme un portrait autonome. Non, l'homme est comme cette ombre vivante qui ne tient son existence que de la lumière et de la proximité de celui qui la projette. L'ombre révèle à la fois une ressemblance réelle, elle épouse les contours de l'original, et une dépendance radicale. Sans la source de lumière, l'ombre disparaît. Ainsi l'homme, créé Betselem Elohim, est dans son essence la présence du Dieu vivant au cœur de la création. Et il est appelé à manifester cette présence divine dans le monde, dans une relation vivante, dynamique et existentielle avec son Créateur et l'autre, c'est-à-dire notre prochain. L'ombre montre de manière unique que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Il est reçu à chaque instant dans une dépendance vivante à Elohim qui se révèle à Moïse par la formule « Ayez, Asher, Ayez, je suis ce qui je suis » et qui est traduit en grec de la Septante « Ego, Emin, O, On, moi, je suis celui qui est », dont l'homme reçoit le souffle, le mouvement et l'existence. Ainsi, l'existence de l'homme est fondamentalement relation. Il n'est pas une réalité close, vouée à se dissoudre dans le néant, mais une présence vivante, appelée à l'éternité, qui ne subsiste qu'en étant sans cesse reçue, donnée et attirée vers son origine divine. Cette image ou ombre dit à la fois la grandeur et la beauté de la nature humaine qui est appelée à manifester Dieu. Ainsi, la relation à autrui ne peut être comprise en dehors de cette relation première à Dieu. Si elle est parfois blessée, c'est parce qu'elle est d'abord appelée à refléter une communion plus profonde, dont elle demeure le signe et le principe d'accomplissement. La souffrance révèle la fragilité de la condition humaine et la profondeur de la blessure du péché. Mais elle ne peut être pensée sans la réponse qui lui est apportée. Car l'homme n'est pas seulement celui qui subit la souffrance, il est aussi appelé à y répondre. Entre la vulnérabilité de la vie et la vocation à aimer, s'ouvre un espace où se déploie une responsabilité, celle de prendre soin. Alors, comment, au cœur de cette condition blessée, l'intelligence humaine, éclairée par la raison et ouverte à la foi, peut devenir un instrument de soulagement et de miséricorde. Comme le rappelle le Concile Vatican II, l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de lui-même. Autrui n'est donc pas d'abord un enfer, mais une médiation nécessaire pour accéder à soi-même et à Dieu. La souffrance relationnelle trouve alors son sens dans cette tension. Elle révèle à la fois la fragilité du lien et sa grandeur. Elle manifeste que l'homme est un être de communion blessé. Là où Sartre voit une lutte des consciences, la foi chrétienne discerne une vocation à la communion, défigurée par le péché, mais non détruite. C'est pourquoi la question de Dieu surgit inévitablement dans l'expérience de la souffrance relationnelle. Car Dieu lui-même se révèle comme relation. Père, Fils et Esprit Saint, communion des personnes. En Jésus, Christ, cette relation divine entre dans l'histoire humaine marquée par la souffrance. Le Christ ne supprime pas la blessure du lien, il la traverse pleinement. Rejet, abandon, trahison. Sur la croix, il assume jusqu'au bout la souffrance d'être livré aux autres et, en même temps, il ouvre un chemin nouveau où la relation n'est plus condamnée à l'enfermement, mais appelée à la réconciliation. Ainsi, la souffrance ne peut être comprise sans la relation. Et la relation ne peut être comprise sans Dieu. Si l'homme souffre par l'autre, c'est aussi parce qu'il est fait pour l'autre. Et si cette relation est blessée, elle demeure le creuset même où peut s'opérer la guérison. C'est dans cette perspective que nous pouvons achever la méditation de ce jour avec cette question. Comment, au cœur même de ces relations blessées, la grâce peut-elle restaurer le lien et transformer la souffrance en chemin de vie? Si la souffrance se déploie si profondément dans la relation à autrui, elle ne s'y réduit pourtant pas. Car cette expérience relationnelle, aussi décisive soit-elle, s'inscrit elle-même dans la condition de notre existence corporelle et biologique. Autrement dit, l'homme ne souffre pas seulement parce qu'il est en relation, mais aussi parce qu'il est vivant. Amen.